Et salut à tous, on est ravis d'être avec vous pour le deuxième jour de compétition de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Bienvenue dans Génération Africa, votre rendez-vous tous les soirs de match pour débriefer les belles et longues journées de foot sur le continent africain. Et cette deuxième journée est déjà pas mal dans son storytelling. On va tout vous raconter avec nos deux amis du soir. Ils étaient déjà là en place hier, ils sont en pleine forme. Elton Mokolo, Samuel Vastin, ça va les gars?
Alex, bonsoir, j'espère que vous allez bien.
Et super.
J'espère que ça me va bien également.
J'espère que tout le monde va bien. Le coach a décidé de nous garder, donc nous ça va.
Ah ouais,
on va continuer.
C'est quoi, petit indice? Je vous garde déjà demain soir.
Ah ouais, avant même le match.
Ouais, ouais.
Ah, t'es ce genre de coach.
Moi,
toi, tu coaches déjà.
La rotation est serrée dans
attention,
mon équipe.
Attention, Alex, il peut y avoir aussi un carton rouge, une blessure.
Vous avez pas intérêt à vous.
Ça, la blessure, fais attention. Fais attention, Elton, tes jambes sont proches des miennes.
Allez-y, calmos. Mais en parlant de blessure, tiens, est-ce qu'on met un petit tir d'entrée à Samuel? Parce qu'on rappelle qu'il y a eu des matchs cet après-midi. Le Mali, les aigles du Mali. Alors,
moi, je me permets juste.
De l'avoir prévenu.
Je me permets juste de vous rappeler la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je crois pas que les résultats des poules aient vraiment influé
est-ce
sur
que, est-ce
les résultats finaux.
Est-ce que je vais autoriser que tu te défendes avant même que j'explique le contexte?
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Le Mali.
Tu vois, je suis sur la défensive quand même d'entrée.
Ça
hein,
sent.
Parce que je sais que j'ai des choses à me reprocher.
Tout à l'heure, hein, on rappelle, face à la Zambie, un partout. Et Samuel, hier, dans sa magnifique tier list que l'on retrouvera tout au long de l'émission et tout au long de la CAN, comme celle d'Elton, Samuel avait mis le Mali en demi-finale.
On m'a dit en régie qu'ils avaient perdu les images d'hier soir.
Après, tu peux toujours essayer de soudoyer si
voilà,
tu veux. Tu peux tenter. Mais bon, au moins, tu vois, c'est dit, c'est fait. On passe à autre chose. T'es tranquille après. Sauf si Elton décide de te le remettre à un moment donné de l'émission.
Ouais, mais après, je me dis, on est que la première journée.
Voilà.
Et que dans l'absolu, tous les matchs. Pas déroulé.
Voilà, on est ensemble en tout cas sur le YouTube de l'After Foot, bien évidemment pour ce Génération Africa 2025. Je vous l'ai dit, on sera là tous les soirs de match pour débriefer la journée. Donc le Mali a fait match nul cet après-midi, c'était le premier match à 15h face à la Zambie. Ensuite il y a eu le match qui vient de se terminer à l'instant entre l'Afrique du Sud et l'Angola. Très très beau match qu'on a vécu ensemble les amis, avec la victoire de l'Afrique du Sud 2-1 face à l'Angola. Et donc il y a un troisième match qui nous attend ce soir, c'est dans moins d'une heure, ça sera commenté évidemment sur RMC, et c'est un gros match puisque l'Égypte va faire son entrée en lice dans la compétition, l'Égypte de Mohamed Salah face au Zimbabwe. On va en parler d'ailleurs dans l'émission de Mohamed Salah. On va se demander si cette CAN c'est peut-être pas la dernière chance d'aller chercher le trophée qui lui manque tant à son beau palmarès à l'Égyptien. Mais on va aussi revenir sur la victoire du Maroc hier, puisqu'il y a eu une mi-temps, deux mi-temps à visage assez différent, on va dire. Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles dans les 20 premières minutes, mais le Maroc s'est quand même imposé grâce à Brahim Diaz et grâce à Kaby Nwévé, bien sûr, avec déjà le but de la compétition. On va en reparler avec Elton et Samuel. Et puis, on va aussi revenir donc sur ces matchs de l'après-midi entre le Mali et la Zambie et l'Afrique du Sud et l'Angola. Et comme d'habitude, il y aura le temps additionnel de l'émission. Mais c'est parti, on revient d'abord à hier. C'était le match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique du côté de Rabat. Franchement, dans une ambiance magnifique, un stade superbe. Et le Maroc qui s'est imposé 2-0 face aux Comores. Juste avant d'aller à Rabat, à retrouver Nicolas Pelletier, notre reporter qui est sur place pour nous raconter un petit peu comment les Marocains ont vécu cette entrée en matière. Juste un petit avis rapide quand même sur cette rencontre de votre part, les garçons, avec Elton.
Au global, c'est une bonne entrée en matière. C'est une bonne entrée en matière parce qu'on l'avait dit de manière traditionnelle, bah encore une victoire par deux buts d'écart.
Tu
notamment pour le pays organisateur. Mais pourquoi? Parce que tous les ingrédients en fait, d'un match d'ouverture qui était sur le papier abordable, mais dans les faits qui pouvait s'avérer compliqué, ça s'est réveillé sur la première période. Si tu veux, Alex, il pourrait exister un chat GPT du football, il aurait pu écrire ce scénario, à savoir, bah voilà, entrer en matière d'un pays organisateur face à une équipe modeste, et pour autant, bah, t'es en difficulté sur la première période, mais après, à l'usure, à l'expérience et à la faveur notamment d'une sortie de banc qui a été convaincante incarnée par El Kabi, et bah tu finis par t'imposer et te donner quand même de la confiance. Et c'est une victoire qui est quand même bonifiée par ce qui s'est passé cet après-midi.
C'est ça, c'est qu'avec le résultat de cet après-midi, tu te dis que c'est une bonne entrée pour le Maroc. Moi, je suis un peu plus dur qu'Elton, parce que tout ce qu'a dit Elton, je suis d'accord, c'est vrai que... quand on prend le contexte, on pouvait s'attendre à ça. Maintenant, moi, j'attends plus du Maroc. Encore une fois, je ne vais pas juger le Maroc comme une équipe lambda qui accueille une compétition, ou même comme la Côte d'Ivoire il y a 4 ans, qui n'est pas une équipe lambda, parce que ça reste un gros d'Afrique, mais qui accueille... Moi, j'attends vraiment, sur cette compétition, je ne demande pas au Maroc de gagner tous les matchs 4-0, on n'est pas stupide. On sait que le foot, c'est pas ça. Par contre, moi, j'avoue que les 25-30, voire 45 premières minutes d'hier, je trouve que le Maroc n'est pas convaincant, personnellement. Je trouve que le Maroc n'est pas convaincant. Brahim Diaz, c'est le buteur, mais Brahim Diaz, s'il prend un rouge en première mi-temps, entre sa main, quand même très grossière.
Le pénalty manqué de Raimi.
La blessure de Saïs, c'est pas de sa faute, mais c'est vrai que tu vois à quel point ça plombe un peu l'ambiance, entre guillemets, ça tue un peu la confiance. Plus je te dis Brahim Diaz qui, entre son tac sur Pandore et sa main dans la surface, aurait pu prendre rouge, bêtement d'ailleurs, hein, parce que c'est deux fautes largement évitables. Moi, je trouve quand même que l'entrée en matière, elle a été, et ça peut se comprendre. Ils ont un peu tâtonné. J'attends beaucoup mieux de cette équipe du Maroc.
C'est pour ça qu'on évoque dans notre titre, hein, l'essentiel avant de convaincre en posant la question. Justement, on va la poser à Nicolas Pelletier en direct de Rabat dans Génération Africa. Salut Nico, comment tu vas ?
Salut les amis, salut à tous.
Salut Nico. Salut
Nico. Nico qui était au stade hier pour assister à ce match d'ouverture, qui va nous raconter un peu déjà comment était l'ambiance, mais surtout comment les Marocains autour de toi ont vécu cette entrée en lice du pays hôte. Ça a été difficile, comme le rappelait Elton et Samuel à l'instant, surtout en première période. La perte du capitaine Nico, Romain Saïs, ça aussi ça a été très dur, mais il y a eu la délivrance à l'arrivée avec cette victoire 2-0. Mais comment on réagit au niveau des supporters marocains et aussi de la presse marocaine au lendemain de cette victoire?
En tout cas, les supporters que l'on a croisés hier après le match étaient plutôt de l'avis de Samuel, de dire que c'était une entrée difficile pour le Maroc hier face aux Comores, une première mi-temps assez difficile pour les Marocains. Oui, il y a la victoire et c'était l'essentiel pour les Marocains d'entrer dans cette compétition. Il y avait aussi beaucoup de pression populaire autour de l'équipe, donc ça a joué peut-être. C'est ce que nous disait hier Romain Saïs en zone mixte après la rencontre. Peut-être que ça a joué sur le mental de l'équipe en première mi-temps. Mais voilà, les Marocains que l'on a croisés à la sortie en faisant un micro-trottoir hier soir, était plutôt de l'avis de Samuel de dire que c'était quand même peu convaincant dans le jeu, cette rencontre face aux Comores, cette première rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations.
Est-ce que la presse juge de manière dure aujourd'hui, ou est-ce qu'elle laisse encore peut-être une carte chance? C'était un peu la question qu'on avait. Est-ce que maintenant il va falloir convaincre sur les deux prochains matchs de groupe en fait?
C'est ça, mais elle est quand même assez tendre avec l'équipe nationale ce matin. Lorsque on peut lire les journaux ou la presse en ligne, elle est quand même assez tendre, la presse, avec l'équipe de Walid Regragui. Les supporters étaient beaucoup plus durs, mais il y a beaucoup de supporters qui sont très durs, que l'on a rencontrés même avant le match, qui sont très durs avec Walid Regragui sur la qualité de jeu notamment du Maroc. Donc voilà, c'est les supporters qui sont un peu plus durs que la presse ce matin après ce match face aux Comores.
Nico, on est obligé de parler d'un homme qui a brillé hier, quelques temps après son entrée en jeu, Ayoub El Kaabi, qui a marqué encore une fois un but extraordinaire. Mais lui, il en a l'habitude justement de ces buts-là. C'est pas sa première retournée acrobatique qu'il nous sort, mais là, il le fait quand même dans le match d'ouverture, la CAN à la maison, sous la pluie. Enfin, c'était un moment exceptionnel. Raconte-nous comment c'était dans le stade à ce moment-là.
C'était totalement dingue. Il y a deux moments qui sont assez forts que je retiens d'hier soir. C'est l'hymne marocain qui était exceptionnel. Franchement, j'ai fait plusieurs stades dans ma petite carrière et j'ai été quand même bluffé par l'hymne marocain sur cette entrée de l'équipe avec l'hymne marocain derrière. C'était assez exceptionnel de vivre ce moment avec l'ensemble des 60 000 spectateurs qui ont chanté l'hymne marocain comme un seul homme. Et donc ça, c'était vraiment bluffant de voir ça hier. Et puis le deuxième but, je pense qu'il y avait toute la tribune de journalistes qui avait les mains sur la tête, qui ne revenait pas de voir ce but. Et en zone mixte après la rencontre, il y avait tout le monde qui parlait que de ce but, parce qu'en plus il faut quand même regarder que le centre est potable, mais c'est pas non plus le meilleur centre possible. Le ballon qui arrive, il est pas non plus exceptionnel, et la reprise qui est quand même à l'extérieur des 5m50, il est assez loin du but. Le but est quand même assez exceptionnel, même exceptionnel, il est exceptionnel. Et donc d'entrer de marquer face à 60 000 personnes sous la pluie, l'image elle était exceptionnelle, et d'ailleurs c'est l'image et la photo qui a fait un peu le tour du monde ce matin pour montrer la Coupe d'Afrique des Nations, mais franchement c'était assez exceptionnel de voir ça au stade. Donc voilà, il y a deux moments, plus la fin de match avec les supporters, c'est assez beau parce qu'ils ont fait un tour d'honneur et on a vu quand même une ferveur populaire derrière l'équipe, mais voilà, ce moment du but est assez exceptionnel.
Ouais, c'est un moment iconique, c'est un moment suspendu en fait dans le temps, et c'est la meilleure pub possible en fait pour ouvrir cette CAN. Elton, Sam, est-ce que vous avez une petite question à Nico qui lui était vraiment au cœur de l'action hier, là où ça se passait?
Non, ouais, les critiques, parce que c'est vrai que Nicole disait la presse a été un peu plus tendre. C'est quoi justement leur angle d'attaque un petit peu ce matin? On sait que les supporters marocains sont très exigeants, ça c'est une réalité. Et la presse, en revanche, que ce soit la presse locale ou même la diaspora en France, a tendance, pardon, hein, je vais faire des ennemis, mais pour une partie, parfois à faire du fan service. Sincèrement, qu'on se le dise. Donc j'aimerais savoir un petit peu c'est quoi leur angle d'attaque ce matin, parce que globalement, moi je trouve que cette équipe, elle mérite d'être stimulée. Et que les joueurs qui ont le plus brillé hier, finalement, bah, c'est pas ceux qui étaient attendus. C'est El Khabi qui rentre et qui fait ce que Raimi a eu du mal à faire pendant une soixantaine de minutes. C'est Salah sur le côté, Salahedine qui fait un match, moi je trouve très très bon. Et même le centre, je te trouve un tout petit peu dur, Nico, parce qu'il est pas mal quand même, le centre sur le retourné.
Ouais, donc voilà. Il est pas mal, mais le ballon n'arrive pas.
Ah oui, non, mais par contre, on est d'accord, c'est El Khabi qui fait tout.
Qu'il la reprenne à ce moment-là. Il fait le geste derrière qui réalise et
où il la place, vraiment, elle est imparable.
Oui, t'as raison.
Il y a un monde où on crie tous en disant mais il lui met dans le dos en fait.
Ouais, c'est vrai. Bon,
au final c'est juste un geste extraordinaire.
En fait, c'est le geste, ce qu'il en fait du ballon derrière, c'est assez exceptionnel. Et même sur le moment, j'ai pas capté le geste. Enfin oui, on voit le geste qu'il fait, mais la manière dont il l'amène, et j'ai été obligé de revoir l'image à l'écran de contrôle pour voir le geste exceptionnel qu'il réalise. Donc ouais, c'est vrai que derrière on peut se dire ah oui, il est même derrière lui le ballon, donc c'est pas du tout jouable, et pourtant il a à reprendre d'une manière, c'est exceptionnel.
Ouais, mais je crois qu'il y a une compile.
Pour te répondre, Samuel, si...
Ouais, vas-y.
L'angle d'attaque, eux, en fait, la presse marocaine te dit qu'il faut rester derrière l'équipe. C'est un peu différent de la France, donc c'est pas un traitement. Il faut pas critiquer ou analyser le traitement de la presse marocaine. Mais en tout cas, il faut rester derrière l'équipe, il faut rester mobilisé derrière l'équipe. C'est un peu le message qu'a envoyé Walid Regragui hier en conférence de presse. Même si la première mi-temps a été difficile, il l'a reconnu totalement, mais il a dit que ça allait monter en puissance. Hein, c'est ce qu'ils veulent au fil de cette CAN. Le premier match n'est jamais est toujours difficile pour une équipe en entrée en lice, mais voilà, il faut rester derrière l'équipe, et c'est un peu le même angle d'attaque qu'a abordé la presse marocaine ce matin en lisant les journaux.
Bon, et puis le prochain match, Nico, ça sera vendredi face au Mali, ça sera déjà très très important puisque les Marocains, en cas de succès, vont acter clairement leur qualification.
La possibilité de se qualifier directement à la faveur d'une victoire contre le Mali. Je voulais également poser une question à Nico.
Bah vas-y, c'est la dernière, et pour toi.
Et notamment, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup attardé sur la première période qui a été difficile, qui n'a pas été aboutie tout du moins. Mais en deuxième période, t'en as pensé quoi des ressources mentales affichées notamment par le Maroc, et notamment ces cadres qui ont été décisifs, à l'image de Mazraoui, Bounou, notamment sur l'énorme occasion des Comores, Amrabat qui a été décisif sur l'action du premier but, et également la jeunesse incarnée par Brahim Diaz qui est moins jeune, mais Neil El Naouy.
C'est difficile à dire.
Ouais. j'ai voulu dire et le prénom et le nom de famille. J'aurais dû m'arrêter.
On a pris rendez-vous chez l'orthophoniste pour demain.
El Aïnaoui, c'est bon.
Personne n'est pas raison.
Et Aguerd l'évoque d'ailleurs en zone mixte à la fin de la rencontre, cette différence entre la première période et la seconde période du Maroc hier, où il y a eu, il a dit, il y a beaucoup de cadres qui ont parlé dans le vestiaire à la mi-temps de cette rencontre pour pas remobiliser, parce qu'ils n'étaient pas en perdition en première mi-temps, il faut pas non plus exagérer, mais pour vraiment mettre le Maroc sur la bonne ligne droite pour les mener sur la victoire. Donc il a évoqué qu'il y avait une prise de parole à la mi-temps avec les cadres, les plus costauds de cette sélection marocaine pour encadrer. Peut-être que ça a servi dans cette seconde période qui était beaucoup plus agréable à voir. Après, j'ai un élément aussi à mettre en valeur, c'est que les Comores ont été plutôt alors je vous dis pas que ça a été l'équipe, enfin une équipe exceptionnelle, mais moi j'ai trouvé ça plutôt une opposition plutôt agréable à avoir joué. Ils ont eu quelques occasions qu'ils auraient pu en première période notamment planter au fond. Donc moi j'ai pas trouvé ça dégueulasse de voir les Comores, et à la fin ils étaient plutôt satisfaits, notamment leur gardien qui a fait une super rencontre. Donc j'ai trouvé ça plutôt agréable à regarder hier. Alors oui, la première période a été plutôt difficile pour le Maroc, mais en seconde période quand même ça a été plutôt bien, et c'est Naïef Aguerd qui l'a bien résumé hier. Et donc voilà, on a senti quand même qu'il y avait une osmose dans ce groupe, parce que quand on les voit arriver, tu débarques sur la pelouse, tu sais, quand ils arrivent en survêtement direct à la sortie du bus, ils arrivent sur la pelouse, et là ils te font déjà un tour d'honneur pour mobiliser l'ensemble du groupe avec l'ensemble des supporters. Et là tu vois quand même qu'il y a un groupe qui est créé par Walid Regragui, qui est quand même assez costaud et qui me fait souvent penser, c'est d'ailleurs les supporters marocains qui le rappellent comme ça, mais ça fait souvent penser à l'équipe de France, parce que il y a souvent un rapprochement entre Walid Regragui, qui est souvent critiqué alors qu'il obtient des résultats assez bon, avec Didier Deschamps qui a des résultats très bons, et le niveau de jeu, ou la qualité de jeu plutôt, qui est critiquable.
L'union sacrée chez les Lions de l'Atlas. Merci beaucoup Nico.
Merci beaucoup Nico.
Nico Pelletier en direct de Rabat. C'est quoi le menu ce soir? Il va manger quoi le Nico?
On va manger avec toute l'équipe de l'After, peut-être un couscous dans le riad de l'After.
Ah, voilà, parfait, t'enverras les photos. Merci beaucoup Nico d'être passé
et les restes
dans Génération Afrique. Ciao Nico, à très très vite dans Génération Africa. On a parlé du Maroc, juste un dernier petit mot, parce qu'on a évoqué la blessure de Romain Saïs, terrible histoire encore pour le capitaine avec cette canne qui s'arrête là. C'est vrai qu'il y a pas de sentiment hein, chez Walid Regragui et les Lions de l'Atlas. Ils ont tranché, il y a eu les examens médicaux aujourd'hui. Et voilà, ça a été notifié que ça serait pas assez rapide dans le temps de guérison pour pouvoir le garder jusqu'au bout. Et qu'il fallait donc pouvoir faire venir quelqu'un dans le groupe. Pas forcément remplacer Romain Saïs dans le 11 de départ, parce que je pense que là-dessus, c'est peut-être déjà joué. Mais vous allez me dire votre avis. Mais c'est Bel Amari, en tout cas, qui a été appelé le joueur du Raja Casablanca pour faire le nombre dans le groupe.
Aujourd'hui, il y a, alors je dirais pas une habitude, mais du côté du Maroc, on a quand même appris à vivre, notamment sans Romain Saïs. Que ce soit lors de la Coupe du Monde et même ces derniers mois, avec un Romain Saïs qui devait faire son retour progressif à la compétition, parce que c'est un joueur qui a énormément travaillé, ça faut le dire, pour arriver prêt pour cette CAN. Malheureusement, il y a cette blessure, mais du côté du Maroc, à partir du moment où on a déjà composé avec l'absence d'Achraf Hakimi, c'est la réalité d'une compétition. Ils ont déjà été confrontés à ce type de situation lors de la Coupe du Monde 2022, et ils avaient plus que bien répondu, puisqu'ils étaient allés en demi-finale, quand bien même à un moment donné ça avait pesé, notamment sur la demi-finale contre l'équipe de France. Mais c'est la réalité d'une compétition. Walid Regragui, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs matchs, met en avant des joueurs, les responsabilise pour justement le jour J être en position de performer. Et donc même si Romain Saïs n'est pas là, et ben le jeu doit continuer. Il y a un objectif, aller au bout le 18 janvier prochain.
Et donc c'est El Yamik qui devrait être titulaire, hein, vu que c'est lui qui a été l'intérimaire hier soir.
Il a déjà un peu d'expérience en sélection.
Voilà,
qui était déjà dans l'absolu titulaire sur la fin de Coupe du Monde.
Absolument, voilà, qui devrait
Hugo Lloris s'en souvient. Ouais.
Naïef Aguerd. Voilà pour le Maroc, on continue de débriefer ce groupe A, puisqu'il y a eu le deuxième match de ce groupe cet après-midi à 15h. Et donc on passe maintenant au débrief des matchs du jour avec ce Mali-Zambie. On en a parlé dans notre tier list hier. Des aigles qui, c'est vrai, se qualifient à chaque fois pour la CAN sur les dernières années, mais qui font toujours figure d'outsider. Mais sauf que sur les dernières éditions, ça déçoit à chaque fois. Même si voilà, Sam voulait y voir d'un bon œil pour cette édition 2025, les avait mis dans ses demi-finalistes. Bon, la compétition voilà, a mal débuté pour le Mali. C'est une des premières surprises de la compétition. Même match nul un partout. Ils avaient tout fait pour que ça commence bien. Hein, pourtant, les joueurs du Mali, parce qu'ils ont mené 1-0, même s'ils avaient loupé d'ailleurs un pénalty, faut pas l'oublier. C'est El Bilal Touré hein, qui l'a frappé, qui a manqué le pénalty.
Personne va vouloir tirer les pénaux dans ce cas.
Hein, c'est vrai que pour l'instant, ça en fait deux. Ça en fait deux loupés, pas très bien tirés. Mais du coup, le Mali, grâce à un joueur connu de la Ligue 1, la Sinsina Yoko, l'attaquant d'Auxerre, qui a réussi à prendre les devants. On pensait qu'ils avaient la maîtrise du match. Et ils étaient en contrôle. Et puis finalement, dans le temps additionnel, 93e minute, un garçon qui a très peu marqué en plus cette saison du côté de Leicester. Un seul but en Championship. Patson Daka est venu arracher un super match nul pour les Zambiens au final. Désillusion pour le Mali. Quand en plus on disait qu'ils vont affronter le Maroc vendredi pour le prochain match, ça les met dans une situation tendue maintenant.
Ah ben c'est ça là, c'est que pour moi, vu du résultat du jour, non seulement c'est problématique qu'ils aient pas gagné ce match cet après-midi parce que il y avait quand même pour moi la place de gagner 1 ou 2-0 minimum pour le Mali, parce qu'on l'a dit en plus hier, la Zambie est dans une préparation très compliquée, arrive de cette CAN.
Bah, ils ont joué récemment contre la République démocratique du Congo, c'était loin d'être abouti.
Ah bon, 9 défaites sur les 10 derniers matchs, je crois, avant d'arriver à la CAN.
Il y a une crise interne, enfin bon, même si on le voit avec Fashion Sakala, avec Daka, il y a quand même des joueurs qu'on connaît.
Fashion Junior. J'insiste là-dessus.
Non, mais c'est
le plus beau nom de cette CAN.
C'est bien de le rappeler. Bon,
en tout cas, le plus beau flocage.
C'est dur de faire mieux, franchement.
Mais tout ça.
Et numéro 10, hein, capitaine.
Tout ça ne justifie pas que ça mette en difficulté le Mali sur un match comme ça où, encore une fois, tu vas jouer le Maroc sur le deuxième match. Si tu perds le deuxième match, tu sais que ça va être
On rappelle qu'il n'y avait pas Yves Bissouma hein, qui était touché à la cheville.
Encore une fois, quand tu regardes le milieu cet après-midi, bon, c'est vrai qu'il manque Yves Bissouma, ok, mais c'est pas non plus dégueulasse la compo du Mali.
Je trouve que
dans la production. Ben, ça manque quand même, notamment dans le dernier geste, de beaucoup de choses. Tu sens en fin de match que ça va craquer, en fait. Alors que ce match, encore une fois, pour moi, il est pour le Mali. Mais tu sens, dans le mood, si je peux me dire, dans l'ambiance de ce match, qu'à un moment donné, la Zambie peut faire quelque chose. Et quand tu vois, encore une fois, les forces de la Zambie, les forces du Mali, et le scénario, c'est pour moi un gros souci à l'entrée en matière.
Il y a eu beaucoup de reproches ces derniers mois sur l'effectif de Tom Saint-Fier, sur le fait que ça manquait peut-être de tueurs dans ce groupe, ça manquait de guerriers, voilà. Parce que quand on va faire une CAN, il faut des joueurs d'un très très bon niveau, ça c'est sûr pour toutes les équipes, mais il faut aussi un esprit de guerrier pour gagner aussi ce genre de match et montrer qu'on laisse pas à l'adversaire la moindre opportunité, et ça n'a pas été le cas cet après-midi.
Non mais Alex, on a le sentiment de se répéter quand on parle du Mali, à savoir que les mêmes défauts sont affichés, ce manque d'efficacité offensive qui est incarné par El Bilal Touré, parce que au-delà notamment de son action du pénalty, il ne faut pas oublier que sur le premier but, il est seul, sans quasiment d'opposition, et il trouve le moyen de tergiverser. Heureusement, le ballon revient sur Sina Yoko. Et enfin, cette fragilité, cette naïveté, notamment dans cette capacité à garder un résultat. Si tu veux, Alex, entre Boaké, le lieu du quart de finale, Côte d'Ivoire-Mali, et aujourd'hui, du côté de Casablanca, on revoit les mêmes défauts, à savoir que contre la Côte d'Ivoire, tu mènes en supériorité numérique, tu te fais rejoindre dans les dernières minutes, rebelote, alors que justement, en qualification, tu avais quand même un côté très hermétique, et là, à l'occasion de ce match-là, le 1-0 face à la Zambie, tu peux te dire que c'est un très bon résultat, sauf que tu prends un but qui est très évitable. Donc, on a le sentiment que le Mali, au moment justement de terminer les rencontres, au moment de sécuriser des victoires qui pourraient te faire avancer dans la compétition, n'y arrive pas, et t'es toujours à la merci, même d'un Zambie qui, ok, il y a très peu de références, parce qu'il y a un entraîneur qui vient d'arriver, on sait pas vraiment où on va, mais toujours est-il que la Zambie a été valeureuse par certains moments. Avant le but, il y a déjà une alerte dans la surface qui n'est pas très bien négociée. Et la deuxième fois, ça fait mouche. Et ça fait que le Mali se met en mauvaise posture avant d'affronter le Maroc. Où là, justement, on se dit qu'il va falloir chercher un résultat. Et si possible, au moins prendre un point pour se donner le moyen justement d'attaquer le dernier match contre les Comores. Et encore une fois, on spécule avec cette ambition d'arracher 5 points.
Et même avec un point, parce qu'imaginons, la Zambie fait un résultat contre le Comores, ça peut aussi lancer leur compète, tu te retrouves sur un dernier match, Mali-Comore, même si tu fais nul contre le Maroc, avec l'obligation absolument de battre les Comores dans un match presque coup près. Je trouve que c'est une équipe, sincèrement, le Mali. Tu l'as dit déjà, très intéressant dans ta question, déjà trop gentil, mais ça date pas d'hier.
C'est des critiques qui reviennent depuis plusieurs années, même j'ai dit des mois, franchement. On a déjà entendu ça
j'ai 30 ans.
Ça fait 3 fois qu'ils sortent des groupes à chaque fois et on reprochait déjà ça.
J'ai 30 ans, ça va faire 25 ans que je suis à la CAN, ça fait 25 ans que je trouve que le Mali est trop gentil, mais surtout, je trouve qu'en plus d'être trop gentil, maintenant ils se compliquent la vie.
Mais ils avaient l'étiquette de loser parce qu'à chaque chaque fois, ils allaient loin dans la compète. Il y avait toujours cet arrêt en demi-finale, notamment, qui était un peu ressassé voilà, dans les bonnes histoires de la CAN.
C'est l'équipe qui allait le plus loin, qui allait le plus en demi-finale, sans jamais remporter.
Donc, ils avaient déjà cette étiquette. Et c'est vrai que là, sur les dernières éditions, on commence à se dire, en fait, ils l'aiment bien, cette étiquette.
Mais aujourd'hui, Alex, on a le sentiment que le Mali joue deux adversaires à la fois. Joue l'adversaire théorique.
Totalement.
Qui est l'adversaire sur le terrain, mais aussi contre lui-même, à savoir qu'il y a une gamberge, et c'est pas anodin de voir par exemple El Bilal Touré, qu'on annonce très fort depuis X temps avec le Mali, qui doit passer un cap, et bah qui craque mentalement, de la même manière que la charnière centrale qui était avancée comme une charnière centrale qui justement devait incarner la solidité défensive, prend un but très évitable, et au milieu de tout ça, et bah il y a des jeunes joueurs qui peuvent s'en sortir, par exemple, Sangaré pour moi au milieu de terrain a surnagé, mais on peut pas se baser seulement que sur des individualités. Il doit y avoir un collectif et un vécu commun qui te permet de traverser des périodes de moins bien où justement tu es quand même capable de garder un résultat, ce que tu ne fais pas.
Alors on rappelle que le Mali affrontera le Maroc vendredi soir à 21h, puis lundi les Comores pour le dernier match de groupe, ça sera à 20h. On va regarder le classement après la première journée. Vous le voyez, le Maroc qui prend donc le bon départ avec ses 3 points devant le Mali et la Zambie qui partagent ce match nul. Les Comores qui sont toujours en course évidemment, 0 points. Mais la deuxième journée là va être très intéressante vendredi dans ce groupe A où ça va être la guerre derrière le Maroc normalement, mais les Maliens sont prévenus.
Les Comores, c'est bien, hein, ils ont commencé par le plus dur, il leur reste Mali,
exactement.
Mali qui est dans le doute, enfin Mali au troisième match et la Zambie qui est entre guillemets en pleine crise.
Non mais tu le sens venir, hein, le Mali-Comores là de lundi.
Ouais, bien sûr.
Aujourd'hui, je dis pas qu'on y va tout droit, mais on s'en rapproche.
Et encore une fois, s'il y a Mali-Comores, pour moi la pression elle sera sur le Mali, et quand on voit comment les Comores, on l'a vu à la dernière CAN, on l'a encore vu hier soir, sont capables de gérer un match où il y a énormément de pression et où l'adversaire est mis justement sous pression, là le Mali se met en grosse difficulté. Ouais.
On se rapproche sur l'autre match du jour aussi qui s'est terminé juste avant l'émission à 20h, c'est cette équipe de l'Afrique du Sud, les Bafana, là on est dans le groupe B désormais qui affrontait l'Angola, ça a été un super match franchement rempli d'occasions, une belle intensité, un très très beau match de Coupe d'Afrique des Nations, victoire 2-1 des Sud-Africains donc face à l'Angola de Patrice Baumel. Un mot quand même sur les hommes d'Hugo Bros, parce que là aussi l'Afrique du Sud nous avait laissé une belle image lors de la dernière CAN. C'est un groupe qui est très souvent renouvelé, perpétuellement renouvelé par Hugo Bros, qui n'hésite pas à écarter les cadres au profit d'intégrer du 109 là-dessus. Les Sud-Africains qui sont tombés face à une belle équipe de l'Angola, mais qui ont réussi à faire jouer leur fausse dans
en
ce match.
En même temps, les deux statuts ne trompent pas. Il était question du troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre un quart de finaliste. Et donc, ça s'est ressenti tout au long de la rencontre, à savoir que l'Angola n'est pas venue en tant que victime expiatoire, n'est pas venue en tant qu'équipe clairement inférieure à l'Angola. L'Angola est venue dans l'ambition d'être une équipe qui va encore une fois être sur la phase éliminatoire, qui va poser des problèmes aux adversaires, et ça s'est ressenti. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé du côté de l'Angola, c'est la réaction à 1-0. Au moment où on se disait que l'Afrique du Sud prend le devant avec notamment ce but d'Apolis, et que derrière ça serait entre guillemets un peu plus facile pour l'Afrique du Sud, il n'en a rien été. À un moment donné, l'Afrique du Sud a été clairement inférieure à l'Angola, avec notamment des occasions.
T'as noté sur les coups de pied arrêtés notamment.
Sur les coups de pied arrêtés, où on a décelé une vraie fragilité du côté sud-africain. Et l'Angola en a profité, notamment sur l'égalisation. Mais ensuite, à la faveur notamment des ajustements tactiques d'Hugo Bros, notamment la rentrée de Moremi, qui va avoir une importance fondamentale, puisqu'il va être décisif, notamment sur l'action du but de Foster.
Lyle Foster, le joueur de Burnley, a marqué un super but.
Exactement. L'Afrique du Sud a repris le dessus. Mais clairement, on voit que les principales qualités des deux équipes résident sur le secteur offensif. Très clairement. Avec fortune diverse, du côté de l'Angola, on n'a pas su le matérialiser pour passer devant. Par contre, du côté de l'Afrique du Sud, on a réussi à le faire. Et c'est comme ça qu'il mérite de l'emporter au final.
Ouais. Un mot sur les Bafana.
Moi, je trouve qu'on a vu déjà sur le match, on a vu deux coachs qui connaissent très très bien cette compétition. Et ça se voit, que ce soit Baumel ou Bros d'un côté. Et,
Bros, on parle d'un champion d'Afrique.
Tout à fait.
Qui connaît le contexte africain.
Et dans leur gestion du match, je trouve que les deux, justement, ça se voit qu'ils savent où ils sont. Ils savent ce qu'il y a à faire. Je trouve que c'est logique que l'Afrique du Sud gagne ce match de 1, parce qu'au point, moi, quand il y avait un partout, je trouvais quand même que si on était dans un combat de boxe, j'aurais levé la main sud-africaine. Moi, je trouve que c'est une entrée à leur image avec, comme d'habitude, une équipe qu'on découvre aussi un peu, on va pas se mentir, sur ce genre de compétition, parce qu'il y a énormément de joueurs des Orlando Pirates, des Mamelodi Sundowns. Donc,
il y en a moins que les années précédentes.
Un peu moins, mais quand même.
Des Mamelodi Sundowns, mais maintenant, il y en a beaucoup plus,
je crois,
des Orlando Pirates.
C'est les Pirates, quoi, qui, c'est ça.
C'était beaucoup plus équilibré.
Qui ont capturé le navire,
avant,
tout à fait.
Ouais, je crois que...
mais justement, tu
je
vois
qu'il y en a 4.
Ouais, il y a 70% de l'effectif qui joue au Mamelodi Sundowns.
Il y a un tel renouvellement aussi du groupe, ouais.
Et c'est aussi ça qui est intéressant chez eux, c'est qu'effectivement, avec un championnat qui est plutôt bon, avec énormément de ressources, avec énormément de joueurs qui sont formés, et ben on voit cette équipe en perpétuel mouvement. Et moi, sincèrement, à chaque cas, notamment cet après-midi, je passe toujours des bons moments devant les Bafana Bafana, et j'apprécie toujours leur mentalité aussi.
Et puis ce qui est très intéressant, c'est le caractère du match 1. Pourquoi je dis ça ? Parce que par rapport à une CAN à 24, on sait que gagner un match te rapproche automatiquement quasiment des huitièmes de finale. Ça, c'est le premier point. Et on n'est pas sur un scénario, on n'est pas sur un format où les deux équipes vont chercher justement à être sur un round d'observation où la défaite est interdite. Et deuxième point, on est quand même dans une poule qui, sur le papier, paraît très ouverte.
Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, tu peux faire d'une pierre deux coups, gagner un match, en même temps, prendre des points à un concurrent direct. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud prend des points à un concurrent direct, en sachant que derrière, t'as quand même l'Égypte à affronter, voire le Zimbabwe. L'Afrique du Sud était dans la poule des éliminatoires en Coupe du Monde, ils sont bien placés pour savoir, et ils n'ont pas gagné contre le Zimbabwe, ils ont fait 0-0. Donc, on avait sentiment que la victoire avait un caractère beaucoup plus important que, entre guillemets, éviter de perdre. Et ça s'est ressenti tout au long de la rencontre, même si avec le fait qu'il y avait ce premier but est arrivé quand même très rapidement et a permis d'ouvrir davantage la rencontre.
Victoire 2-1 donc de l'Afrique du Sud face à l'Angola, et pour la prochaine journée, ça sera là aussi vendredi, ça va franchement être...
Ouais, là c'est Royal Rumble là.
Les amis, ne loupez pas le Génération Africa
Noël, en fait,
de vendredi. Exactement.
Là, vous allez avoir les verrines du 24, du 25 et tout, gardez-les au chaud, enfin gardez-les au froid plutôt.
On sent l'argenterie et tout là.
Et recevez Elton chez vous, il va tous les finir.
Exactement.
Je rappelle donc que l'Angola affrontera le Zimbabwe à 13h30, et là le choc Égypte Afrique du Sud, ça sera à 16h, ça sera parfait pour la digestion derrière, on va s'éclater vendredi pour cette deuxième journée du groupe B. On passe à la dernière rencontre qui nous attend maintenant ce soir dans moins d'une demi-heure, avec l'Égypte qui va affronter le Zimbabwe du côté d'Agadir. Et évidemment on est obligé de parler de Mohamed Salah, qui a 33 ans, l'ailier de Liverpool, dispute peut-être, on ne sait pas, sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il aurait 35 ans pour disputer la prochaine en 2027. C'est toujours possible. Mais quand on voit les 6 premiers mois de la saison à Liverpool, ce qui s'est passé, on va y revenir dessus. Rien ne dit qu'il jouera toujours en PL dans quelques semaines ou en 2026. Rien ne dit qu'il arrivera à maintenir un niveau de performance dans les prochains mois. Mohamed Salah joue-t-il son va-tout, Elton et Sam, sur cette Coupe d'Afrique des Nations ? On rappelle, c'est le seul trophée qui lui manque après avoir été en finale deux fois et avoir perdu en finale.
Clairement, on a le sentiment que Mohamed Salah a une dette avec la Coupe d'Afrique des Nations. Une dette où on sait comment ça se passe. Mohamed Salah est égyptien, et quand on parle de l'Égypte, on parle d'une équipe qui ambitionne le grand 8. La 8e victoire en Coupe d'Afrique des
club
Nations.
Le plus titré. L'habitude du championnat.
Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Mohamed Salah a une histoire, enfin... Et le digne héritier d'une histoire qui le précède, à savoir une histoire qui est riche en trophées. Et donc par rapport à ça, Mohamed Salah qui s'avance notamment avec cette idée d'enfin remporter cette CAN, parce qu'il reste quand même sur deux finales, 2017
2021.
Et 2021, ou plutôt 2022 si on veut jouer sur les mots, bien avec sûr. Cette défaite contre le Sénégal. On a le sentiment que Mohamed Salah, il est dans un momentum où il faut aller remporter la CAN. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'en conférence de presse avant match, Ahmed Hossein, qui est son sélectionneur et qui lui
est une légende aussi,
qui est une légende et qui sait ce qui est de remporter des coupes d'Afrique des Nations, et lui a dit Mohamed Salah doit remporter la CAN, ce qui lui met quand même une pression qui est quand même importante, doit remporter la CAN, alors que dans l'absolu, on pourrait dire l'Égypte doit remporter la CAN.
Après, Arnaud Slot lui avait dit Mohamed Salah doit mieux jouer. Oui. Donc, il commence à avoir beaucoup de consignes.
Donc, voilà, au moment d'entrer sur la pelouse face au Zimbabwe, il sait qu'il joue pour l'histoire du continent et il joue pour son histoire personnelle.
Même s'il n'est plus l'unique joueur de l'Égypte aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de très bons joueurs, notamment offensivement parlant. On l'évoquait un petit peu hier, mais Mohamed Mostefa, il y a
Marmouche
qui joue à Manchester City. Ça peut peut-être le délester d'un certain point, mais quand tu rappelles ce que vient de dire le sélectionneur, c'est vrai que ça reste l'icône, le totem Mohamed Salah, mais voilà, à 33 ans, il n'y en aura peut-être plus derrière.
C'est là où il y a erreur pour moi. C'est ce qui est, c'est... Surtout quand on est à Médossane et qu'on a vécu des belles périodes avec l'Égypte, qu'on sait ce que c'est que l'Égypte, ça a toujours été une force collective. Avant tout à la CAN, déjà un peu comme l'Afrique du Sud, d'avoir énormément de joueurs qui jouent dans le championnat. Il y a des équipes légendaires dans le championnat égyptien. Il n'y a pas que eux qui ont des records. Il n'y a pas que la sélection nationale qui a des records en Afrique. Il y a les clubs aussi. Donc c'est aussi ce cocktail-là qui peut permettre à l'Égypte de gagner une CAN. Moi, ce qui m'agace un peu depuis 2019, et c'est à peu près depuis ce moment-là que on estime que Salah a une dette depuis l'élimination 8e contre l'Afrique du Sud justement, c'est qu'en fait on dit ah ben Salah, il a marché sur la Première Ligue, il a marché sur la Ligue des Champions, mais il doit gagner la CAN tout seul. Ça ne marche pas. J'ai pas en tête, moi, d'équipe, de joueur qui a gagné la CAN tout seul depuis très longtemps en Afrique. Donc c'est là où moi je trouve que c'est quand même un petit peu toujours compliqué de se dire Salah doit gagner la CAN. Salah et l'Égypte doivent gagner la CAN. L'Égypte est sûrement l'équipe qui sait le mieux gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Moi j'attends un jour que l'équipe permette que l'Égypte permette à Salah aussi de gagner une CAN.
Il y a ce triplé 2006, 2008, 2010 qui entre dans la légende. On rappelle que l'Égypte a été sortie en 8e de finale en Côte d'Ivoire. Elton sur les pharaons et plus précisément sur Mohamed
je
Salah.
Je connais pas l'identité de l'adversaire ce jour-là, moi. Donc, sur le 8e de finale. Aucune idée.
Ça n'a pas existé.
J'adore
quand tu fais des parenthèses comme ça.
Mais en plus, moi,
il quitte le studio en l'espace de 5 secondes, Elton. Il est dans sa bulle.
C'était une très belle soirée, faut dire quand même. J'étais en reportage avec les Congolais, j'avais passé un très bon moment.
Ah, c'était le Congo, ouais, j'avais même pas.
Ah bon
ouais. J'aurais joué Cap Vert, mais bon.
Ah ouais,
c'est le même maillot. Même un petit mot sur le contexte, parce qu'on a parlé du poids de l'héritage pour Mohamed Salah avec l'Égypte. Il y a le contexte de Liverpool, parce que franchement, sur ses premiers mois de compétition, il était dans le viseur sur ses mauvaises performances, au point que Arne Slot, le coach de Liverpool, a décidé de le reléguer sur le banc, chose qui a complètement fait craquer l'ego de Mohamed Salah, qui est une légende vivante de Liverpool. Mais on fait référence à un de ces clubs européens qui a un passé tellement glorieux où l'institution reste au-dessus quoi qu'il arrive. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans une période où il y a eu beaucoup de défaites, beaucoup de remises en question du côté de Liverpool, qui est un club plutôt habitué à la stabilité. Cette CAN va-t-elle pouvoir servir Liverpool dans le sens où elle enlève la pression Salah au groupe de Liverpool pour essayer de jouer et de se retrouver sans lui? D'ailleurs, les résultats commencent à revenir un petit
Liverpool
peu.
Il va plus cinquième, ouais.
Et dans un autre sens, double effet, va pouvoir aider Mohamed Salah peut-être à se retrouver lui-même et revenir dans une meilleure forme pour la deuxième partie de la saison.
La théorie du « parfois, il vaut mieux se quitter pour mieux se retrouver » prend tout son sens, notamment pour cette CAN, parce que c'est vrai que ça a été notamment une porte de sortie qui était appréciable pour les deux parties. Pas nécessairement dans l'idée de se dire que Mohamed Salah fallait qu'il quitte Liverpool coûte que coûte, mais aussi pour justement apaiser les tensions, donner un peu plus de temps de jeu, notamment à d'autres joueurs offensifs, et entre guillemets, se couper notamment de débats qui auraient existé, de questions qui auraient été posées à Arne Slot sur une période de charnière comme le Boxing Day. Et en même temps, pour Mohamed Salah, et ça lui permet d'avoir, entre guillemets, un cocon, entre guillemets, local, où justement, l'attention sera principalement portée sur le fait que Mohamed Salah doit gagner la CAN avec l'Égypte. Et si vous voulez, les considérations Liverpool en Égypte à l'orée d'une CAN, on n'en a rien à cirer.
Donc c'est du 0%.
Donc c'est pour ça que sur le court terme, c'est un deal gagnant-gagnant provoqué par le fait qu'il y a une CAN qui arrive fin décembre.
Très bien. Eh ben justement, on va se plonger dans ce match du côté d'Agadir entre l'Égypte et le Zimbabwe. Le coup d'envoi est dans 20 minutes maintenant et sur RMC, il sera commenté par Clément Brossard qui nous rejoint dans Génération Africa. Voilà, une des voix d'RMC. Ça va, mon Clément?
Et un peu là, ça va, et vous-même?
Très bien.
Ça va, on est installé dans cette canne là.
Nickel.
Depuis hier.
Ah oui. J'aimerais bien commenter le match depuis le canapé, là, ce serait bien.
Non, je vais très bien être aussi dans ma petite cabine.
Dans ma cabine, je serais
Mais comme ça, moi, je suis focus, tu vois. Focus
sur les Pharaons, sur les Warriors. Tu vas nous apporter toutes les dernières infos sur ce Égypte-Zimbabwe. On va commencer par les compos, forcément.
Les compositions, je les ai avec moi. Il y a quelques petites surprises. On va commencer par l'Égypte, d'abord, avec Mohamed El-Shenawy dans la cage. Une défense à 4 avec Hamdi sur le côté gauche. Abdelmagid dans l'axe avec Yasser Ibrahim et Mohamed Hani, capitaine, donc sur le côté droit, capitaine de temps en temps bien sûr, parce que là, il est présent, Mohamed Salah dans le 11 de départ. Ouf. Au milieu de terrain, Hamdi Fati, t'as vu, je t'ai mis le petit coup de chaud,
capitaine de temps en temps. 10 minutes alors qu'il sera pas titulaire.
Hamdi Fati avec Marouane Attia au milieu de terrain et Mamachour aussi, et devant on a sorti quand même l'Armada, Mahmoud Trezeguet, Omar Marmouche, Mohamed Salah et Mostafa Mohamed, et donc sur le banc, le Nantais au coup d'envoi. Pour le Zimbabwe, c'est là qu'il y a des petites surprises, parce qu'on a un seul latéral gauche de métier dans cette équipe, c'est Lunga, le joueur des Mamelodi Sundowns, et il est sur le banc puisqu'on a décidé de mettre un défenseur central pour jouer à gauche, à savoir Tinashe Adebe, le joueur de Cincinnati en MLS. Takuara sera dans la défense centrale avec le joueur de Copenhague également, Garanaga, qui sera un des joueurs à suivre dans cette CAN. Juste sur la droite, Murwira. Dans la cage, Aroubi, qui n'a pas joué tous les matchs non plus lors des qualificatifs. C'est un gardien quasi éternel de 40 ans pour le Zimbabwe. Milieu de terrain, la révélation peut-être de cette Coupe du Monde, de cette CAN, Marvelous Nakamba, qui sera présent, le joueur de Luton Town. Donc capitaine autour du biceps, avec Fabish qui sera sur sa droite. Emmanuel Jalai sur la droite, sur le couloir droit. Daniel Msandami sur le couloir gauche. Et puis devant, Prince Dubé, qui sera aux côtés de Washington Navaya, qu'on n'attendait pas forcément. 3 sélections seulement avec le Zimbabwe, et donc il découvrira la Coupe d'Afrique des Nations ce soir.
Très bien, merci Clément. Moi, on m'a murmuré qu'il fallait se méfier un petit peu de la défense centrale du Zimbabwe, notamment, mais en parlant de la défense centrale du Zimbabwe, Clément, on aborde les clés du match. Il faut parler de l'attaque égyptienne, oui. Parce que il y a des noms franchement reluisants, mais ça ne veut pas forcément dire que ça marche à tous les coups.
Non, à la peine, je pense qu'on va parvenir sur Mohamed Salah, vous en avez parlé longuement ces dernières minutes, mais voilà, on le sait en difficulté, peut-être dans une des pires périodes de sa carrière, en tout cas sur ces dernières années-là. Ça ne va pas fort non plus pour Omar Marmouche, qui lui a eu du mal à revenir après sa blessure au genou. Il a joué quasiment que 50 minutes presque sur les 7 derniers matchs. C'est très compliqué pour lui aussi, donc on va voir dans quel état de confiance il va revenir. Est-ce que ça va matcher aussi sur le front de l'attaque où Mostafa Mohamed, a lui aussi du mal, même s'il est sur le banc des remplaçants ce soir avec le FC Nantes. Il a inscrit que 2 petits buts depuis le début de la saison. Il a perdu sa place de titulaire sur les 2 derniers mois. Donc finalement, celui qui marche le mieux en ce moment, c'est Trezeguet.
C'est qui, le tonton.
Évidemment, le tonton de la sélection, qui sera encore présent. 87e sélection ce soir avec les Pharaons, sur le couloir gauche, qui a décidé de revenir avec Al Ahly dans son club, finalement, l'été dernier, pour jouer notamment la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, c'est celui qui fonctionne le mieux, parce que cette attaque-là, c'est vrai, ce sont des noms ronflants, comme tu le disais, mais il y a quand même une grosse difficulté sur le plan mental, peut-être aussi, à l'abord de cette compétition.
Là-dessus, c'est dur, parce que quand tu vois la feuille de match, t'as que des superstars, et au final, tu te dis que chacun de son côté connaît des galères. Est-ce que la sélection, c'est justement pas fait pour ça, pour relancer ces garçons-là?
Mais c'est une situation qui est quasiment inédite pour Mohamed Salah, et on peut le mettre pour Marmouche également, à savoir que c'est des joueurs qui sont impactés par leur situation club, alors qu'on parle de joueurs qui évoluent dans une sélection qui est très importante et qui normalement devraient avoir un état de confiance qui est quand même très important. Sauf que, à partir du moment où ils jouent pas en club, ça peut les impacter. Et notamment, ce manque de compétition, je fais référence notamment à Marmouche, qui a seulement 2 titularisations avec Manchester City, ça peut avoir un impact. Après, il y en a qui pourront se dire, oui, ils auront quand même une certaine fraîcheur, mais attention, parce que le Zimbabwe a quand même accumulé, alors peut-être pas une grande confiance, mais de la confiance par rapport au fait qu'ils étaient dans une poule, notamment pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, où il y avait l'Afrique du Sud, il y avait le Bénin, il y avait le Nigeria, et ils ont été en capacité et de tenir en échec le Nigeria et de tenir en échec l'Afrique du Sud, qui s'est qualifié directement. Donc sur un match 1, parce que faut pas, on a évoqué le Maroc, on a évoqué le Mali, sur une entrée en lice, attention, et l'Égypte est bien placée pour le savoir, parce que à l'occasion de la CAN en Côte d'Ivoire, il y avait eu un 2-partout contre le Mozambique qui avait conditionné la suite de la compétition.
Sam, sur cette attaque égyptienne qui a du mal à se montrer efficace.
Ouais, surtout que le Zimbabwe, on sait que c'est une équipe qui est souvent composée de joueurs qui connaissent très très bien le continent, qui la plupart jouent encore en Afrique ou y ont joué pendant des années. Donc on sait qu'eux, ils vont savoir un petit peu comment déjouer aussi.
On va en parler justement dans un instant.
Non, mais c'est pour ça, pour dire qu'effectivement, pour des joueurs comme Marmouche, comme Salah, qui ne sont pas en forme, ça peut être compliqué. D'où... Moi, je suis d'accord que Trezeguet, l'ancien, c'est peut-être par lui que peut passer la solution, qui peut au moins peut-être un petit peu libérer ses coéquipiers, parce que ils vont forcément tomber. Enfin, je dis ça, il y aura peut-être 4-0 vu mon début de compète. Vu mon début de compète, c'est possible, mais je pense qu'ils vont quand même tomber sur un os avec le Zimbabwe, qu'il va falloir faire le tour.
Ils vont faire honneur à leur statut des Warriors.
C'est ça, exactement. Ouais. Oh, c'est beau.
Et justement, Clément Brossard qui va commenter cette rencontre là dans un quart d'heure maintenant sur RMC, dans les clés du match que t'as repéré, Clément, on a parlé de l'attaque égyptienne, y a la défense zimbabwéenne. Là aussi, il y a de l'expérience, voire du savoir-faire, c'est ça ?
Ils arrivent pas mal à contrôler ce qui est grosse équipe du continent, et t'as raison de le souligner, hein, notamment Elton, sur les derniers matchs comme ça, on a vu cette équipe du Zimbabwe et bien tenir la dragée haute au Nigeria, l'Afrique du Sud, au Cameroun aussi, sur cette dernière année. Civil, c'est 13 buts seulement pris en 16 matchs, donc ils ont une assise défensive assez certaine, contrôlée notamment par, je vous le disais tout à l'heure, Garananga, hein, qui est le joueur de Copenhague, qui a aussi l'habitude, qui commence à avoir l'habitude, on va dire, des joutes européennes. Il a une petite vingtaine de matchs
Copenhague en Ligue des Champions.
Ouais, exactement, sur l'échelle des compétitions européennes. Maintenant, là où ça peut pêcher, c'est qu'on a quand même l'absence de certains cadres dans cette formation du Zimbabwe. Marshall Munetsi, notamment, qui n'a pas été retenu. Ça a fait toute la polémique au pays. Le joueur de Wolverhampton, l'ancien milieu de terrain du Stade de Reims. On a aussi Jordan Zemura, le joueur du Udinese, qui lui est absent, et c'est l'arrière-gauche justement de métier de cette équipe normalement. Et puis Andy Rinomo qui lui a quitté le rassemblement pour des raisons personnelles, une affaire familiale à régler, donc il pourrait revenir dans la compétition, mais pour l'instant il est absent, donc ça fait quand même deux cadres et demi absents, et c'est peut-être ce qui va pêcher. Et justement, avec ces absents, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Retrouver ce qu'on sait faire de mieux, à savoir défendre et laisser peu d'espace à ses attaquants.
Le bétonnage.
Du bon bétonnage.
Non, mais encore une fois, c'est vrai que c'est vraiment une équipe, le Zimbabwe, sur chaque canne, qui est, je disais, très difficile à contourner. C'est généralement une équipe contre qui il faut garder ses nerfs, il faut ne surtout pas s'emporter. C'est une équipe qui va savoir, sur les coups de pied arrêtés, venir aller au duel, etc. Donc, pour le coup, pour une équipe comme l'Égypte, qui effectivement arrive, et moi j'ai un peu ce sentiment en se disant, c'est la victoire ou rien, alors que t'es quand même tu vas jouer la CAN contre le Maroc, qui est ultra favori. Dans ce type de configuration, peut-être que le Zimbabwe peut avoir un petit avantage.
Si je dis pas de bêtises, c'était le match d'ouverture de la CAN 2019.
1-0, but de Trezeguet.
Et ça avait été un match difficile.
L'histoire se répète.
Je sais pas, mais toujours.
À la limite, pour les Égyptiens, ça.
Elton, il lance des indices et après il dit débrouillez-vous. Hein,
moi, je balance un bouclot comme au collège, après je m'en vais.
La mini, il peut dire, je l'avais dit.
C'est toujours ça, il retourne toujours sur son but, hein, franchement. En tout cas, merci Clément, parce qu'on a toutes les infos maintenant et on va pouvoir justement voir les cotes de notre partenaire Winamax sur cette rencontre entre l'Égypte et le Zimbabwe qui va démarrer dans un petit peu plus de 10 minutes. Elles sont là, nos cotes, vous allez les voir. Avec l'Égypte forcément favorite de cette rencontre. Regardez la cote de l'Égypte ce soir, elle est à 1,28 face au Zimbabwe. Le match nul 4,80 et le Zimbabwe à 12. On remercie Clément Brossard, que vous retrouvez sur AMC en direct dans quelques instants. Même question qu'hier. Est-ce que vous jouez plutôt, en partant du principe que l'Égypte est donc favorite, vous jouez plutôt le match nul à 4,80 ou le Zimbabwe à 12?
Je joue beaucoup plus le match nul. À partir du moment où on a évoqué les statistiques, notamment du Zimbabwe, sur la capacité à tenir des grosses nations du continent. On a évoqué aussi le précédent tournoi de l'Égypte lors de la CAN en Côte d'Ivoire, où il y avait eu 3 matchs nuls. Et donc, pour moi, c'est le résultat où j'irais beaucoup plus.
Mmh. Je suis assez d'accord. La victoire à 12 du Zimbabwe,
c'est un peu osé, ça.
Ce sera un petit séisme en plus.
À noter que ça a un peu augmenté, parce que ce matin, c'était à 11. C'est à 11. Peut-être que les compos ont une influence, parce que même la cote...
Ou alors ils ont écouté Samuel hier sur ses pronos et...
Mais même la cote de l'Égypte, elle a été un peu rehaussée, donc
Je vais sur le nul à 4,80, il est jouable. La victoire du Zimbabwe, ça... Je pense que ce serait encore une fois un vrai séisme, et S'il y a victoire du Zimbabwe, je peux te dire que...
Ce serait le temps fort de la compétition.
Et je peux te dire que les prochains matchs de l'Égypte, j'irai sur les quotas 12. Alors, je pense qu'ils vont du mal à s'en relever, avoir du mal à s'en relever si ça arrive.
Ça peut faire des dégâts, vous l'avez compris. C'est dans 10 minutes, donc le coup d'envoi du dernier match de la journée entre l'Égypte et le Zimbabwe dans ce groupe B. C'est du côté d'Agadir et c'est dans 10 minutes. On a les résultats de toute la journée à vous montrer. Voilà les matchs qui nous concernaient dans cette deuxième journée de la CAN. Moi, j'adore parce que le match d'ouverture, c'est tout le temps l'épreuve de force. Et quand tu rentres dans n'importe quelle grande compétition internationale, le deuxième jour, c'est le jour un peu bonbon. Tu te lèves le matin,
exactement.
Tu sais que tu vas consommer du match, et t'es tranquille, t'es dans ta petite bulle, t'es bien lancé.
Et tu sais pas encore si si t'es dans le bon moment de la compétition ou pas. C'est-à-dire que tu peux t'en rendre compte deux semaines après, mais c'était là, c'était bien en fait le début. Et inversement.
Après, très sincèrement, le Mali-Zambie, c'était le moment réglisse. J'aime pas trop la réglisse.
Ouais, moi j'aurais dit c'était le café, quoi.
Donc vous voyez le programme, je vais vous rappeler les résultats dans ma petite voix. Le Mali face à la Zambie, donc on a compris un partout, c'était le match cet après-midi. L'Afrique du Sud face à l'Angola, la victoire 2-1 des Sud-Africains face à l'Angola avec un super but de Lyle Foster, notamment l'attaquant de Burnley. Et puis le dernier match qui nous concerne dans quelques minutes, donc l'Égypte face au Zimbabwe. On est dans le temps additionnel de Génération Africa.
C'est possible le nul, hein, du coup, parce que pour l'instant, on a une victoire à nul, une victoire, donc...
Oui, il y a une certaine logique à ça.
Voilà. La loi des séries.
Y a-t-il une logique à...
C'est le multiverse de la CAN.
Il a compris direct. Et oui, on rentre dans le multiverse de la CAN, dans le temps additionnel. Ce sont les questions qui ont été préparées à la va-vite, qui n'ont aucun sens, mais qui nécessitent beaucoup de réflexion et de concentration pour Elton. Et Sam, j'en ai pas fait autant qu'hier parce que j'ai vu à quel point ça pouvait décontenancer.
Je dis qu'en fait, c'est pas les bons clients. Là.
Dans le multiverse de la CAN ce soir,
oui.
Y a un rapport forcément avec le match. Retour sur l'Égypte. Revenons en 2021, cette séance de tir au but en finale face au Sénégal. Si Salah, Mohamed Salah, avait frappé son tir au but comme un leader en premier, aurait-il une Coupe d'Afrique des Nations à son palmarès?
Moi, j'ai envie de dire non, parce que c'était l'année du Sénégal. Rappelons qu'il n'avait jamais gagné à l'époque. Hein. Donc, non, je pense que...
Ça n'aurait rien changé.
Voilà.
Ouais, ça n'aurait rien changé, et je te dis ça, d'autant plus que derrière, à Dakar, à l'occasion des barrages Sénégal-Égypte, il l'a tiré en premier, et il a raté.
C'est vrai. Et puis, Sadio Mané, qui était son coéquipier à Liverpool à l'époque, lui,
il a marqué.
A marqué le tir au but de la victoire. Donc, pour le Sénégal, c'était en finale en 2021, face 2022 même. Précision...
Exactement.
Très, très importante. Deuxième question du multiverse de la CAN ce soir. Alors là, c'est plus question quiz pour vous, parce que je voulais quand même vous embêter sur vos connaissances. Le Zimbabwe qui va jouer face à l'Égypte, ancienne gloire du Zimbabwe. Combien de buts a Benjani à la CAN en carrière?
Oh. Ah, j'ai...
Pas énorme, Benjani, l'ancien Auxerrois, bien sûr.
Et Portsmouth.
Ouais, mais on est... Pas regardé, je pense qu'on n'est pas regardé à Portsmouth ce soir.
Mais je suis fou, il y a City.
Oui.
Il y a Manchester City,
oui,
moi,
oui,
je me souviens.
Oui, mais c'est pas City, oui, bien sûr. Ouais,
toi, t'es dans Generation Africa ce soir, en fait.
Je me souviens du derby 5.
Tu veux que je fasse l'émission en anglais?
On est à la BBC, lui, l'émission.
Je crois,
pour l'Eurostar, pour
Elton. Il marque sur le derby, quoi. Il perd Manchester en 2008.
T'échappes pas de la question pour me dire, ouais, il a joué en Angleterre et pas que en France aussi. Ouais, tu gagnes du temps. Combien de buts Benjani en carrière à la CAN?
Est-ce qu'on a le nombre de CAN qu'il a disputé? Parce que moi, j'étais petit. Moi,
il a marqué que lors d'une seule CAN.
Moi, 3.
3.
4.
4, vous êtes loin du compte. C'était en 2006, un but face au Ghana. C'est son seul but à la CAN en carrière à Benjani, illustre gloire du Zimbabwe. Allez, encore une question, une dernière sur ce multiverse CAN. C'est le temps additionnel de Génération Africa. Le recordman de sélection du Mali, qui a joué tout à l'heure le Mali, le match nul face à la Zambie, le recordman de sélection du Mali est-il le même joueur que le recordman de but?
Donc c'est Edou Keïta, c'est la question. je sais, est-ce qu'il est aussi le record? Moi je dirais oui, je pense oui.
Oui.
Ouais.
Oui.
Oui.
Je peux pas croire que ce soit Kanouté.
Donc ça se partage pas entre Kanouté et Keïta?
En tout cas, le meilleur buteur, c'est Keïta, sûr. Mais alors, celui qui a le plus de sélections...
Non, moi, je mets Keïta dans les deux cas.
Ouais, okay. Le meilleur buteur, c'est Keïta.
Donc tu réponds à la question en disant oui, c'est la même personne.
Ah oui, c'est la même personne.
Encore man de sélection et de but, c'est la même personne. Et ben c'est bien joué.
C'est vrai. Oui,
c'est
oui.
Bien joué, Seydou Keïta.
Ah, je me suis dit, t'allais être vicieux.
Non, bien sûr que non. 26 buts, Seydou Keïta, avec le Mali, recordman de sélection. Mais pas de beaucoup, 26 buts devant Fred Kanouté. Mmh. 23 buts pour Fred Kanouté. Mais
et c'est Doumbia qui est pas loin, je crois, qui est genre.
Doumbia n'est pas très loin. Mais c'est vrai que Seydou Keïta, milieu de terrain. Pour les plus jeunes qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas, qui n'ont pas eu la chance de voir jouer Seydou Keïta.
YouTube, tout de suite.
Monstrueux.
Je recommande la CAN 2012.
Le Barça de Guardiola, c'était pas mal.
Ça
Guardiola.
Revient sur le Mali de l'époque où on se disait, voilà, là il y avait des joueurs, il y avait quand même une âme et des guerriers. Kanouté, Keïta, Brahim Thiam, qu'on salue, notre confrère de
Bine. Deux, troisième de suite, hein.
2012-2013, ouais. Avec le grand Cheikh Diabaté.
Il y avait quelque chose, franchement, dans cette...
Là, tu me fais la passe D, je place.
Allez,
hein,
Bordeaux,
désolé,
on est avec vous, voilà, bien ça. Sûr. Il nous reste encore quelques secondes avant de vous lancer vers Agadir et ce Égypte-Zimbabwe. Pour conclure ce deuxième jour de compétition, on va se faire le programme ensemble de cette belle journée qui nous attend demain. Je vous rappelle qu'on sera ensemble sur un format réduit, toujours avec Elton et toujours avec Samuel, mais on sera avec vous de 20h30 à 21h en direct pour débriefer les nombreux matchs de la journée, vous le voyez. Donc la RDC, le Congo qui affrontera le Bénin dès 13h30. Il faudra surtout pas louper ça.
Elton ne va pas louper ça,
évidemment. Dans la foulée, Sénégal, Botswana, toujours dans le groupe D. Il n'y a que des gros noms, hein, demain, franchement. Nigeria dans le groupe C à 18h30 face à la Tanzanie, les hommes d'Eric Schell. Et puis, ça sera la Tunisie qui conclura le groupe C à 21h face à l'Ouganda. On a quelques secondes, un petit prono rapide, mais là, je vous en tiens par rigueur pour demain. Là, vous êtes franchement libre de...
Alors, de manière totalement désintéressée.
Évidemment.
RDC victoire. Sénégal-Botswana, bah, on va rester sur la logique Sénégal. Nigeria-Tanzanie, en dépit notamment des problèmes qu'il peut y avoir dans la sélection, je mettrai quand même le Nigeria. Et Tunisie-Ouganda, j'ai envie de mettre un match nul.
J'allais dire la même chose en précisant Tunisie-Ouganda, je vois bien le premier 0-0 de cette CAN.
Ah,
parce que la Tunisie encaisse très peu de buts.
Là, tu nous coupes la
main. Mais peu. Ah ouais,
ouais bah, il est dur, là, 0-0 à ce moment-là de la journée.
Ouais, 21h, ouais. c'est main event, hein, c'est pas le time.
Voilà. C'est main event, exactement. Voilà donc le super programme qui nous attend demain et on sera là dans Génération Africa comme tous les soirs de match pour débriefer tout ça. On sera avec Elton Mokolo, avec Samuel Vasselin dès demain. Je vous rappelle, on est en direct sur le YouTube de l'After Foot d'RMC. On est aussi à télécharger en podcast pour vous. Si vous n'êtes pas là sur le direct, vous pouvez rattraper la séance et on aura à cœur, à plaisir,
on aura le plaisir
du monde. On aura à cœur de vous retrouver dès demain. Je vais y arriver. Ça y est, on va pouvoir se lancer sur ce Égypte-Zimbabwe. Merci de nous avoir suivis, les amis. À demain avec Elton et Samuel. Bonne soirée. Bonne soirée de la CAN à vous tous.
Ciao.